Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Salut à tous, les Jeux Olympiques, c'est parti pour 15 jours. C'est aussi le retour de l'Heure Olympique, votre podcast quotidien, un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox, et les meilleurs extraits en vidéo sur eurosport.fr. Je suis Adrien Yo et pour cette première journée, les journalistes Maxime Dupuy et Laurent Vergne, ainsi que nos consultants Loïs Haber et Ophélie David, sont présents. Salut à tous.
Salut.
Salut. Salut. T'as toujours pas sorti de disque, Adrien, avec ton super générique?
Non, je sais que tu l'aimes, ce générique.
Tu sais que ça m'avait manqué. Hein.
Eh ben, tu vois, il revient et il sera là tous les jours pendant.
Je conseille d'ailleurs à tout le monde de réécouter le dernier numéro de l'Heure Olympique sur les Jeux de Tokyo.
Ouais, on a bien rigolé, le best-of. Pour débuter ce nouvel épisode, nous évoquerons évidemment la médaille d'argent du relais mixte avec Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Une breloque obtenue dans des conditions difficiles. Des conditions, il risque d'en être question un paquet de fois pendant ces JO. Ce sera en tout cas l'objet de la question qui fâche avec le troisième entraînement de la descente annulée à cause du vent. Fallait-il l'annuler de cette manière? On en débattra. Et on se projettera ensuite sur la finale de Perrine Laffont en bosse qui va tenter un formidable doublé dimanche, l'Heure Olympique. C'est parti! La France n'a pas attendu longtemps avant de décrocher sa première médaille et c'est l'argent qui est venu couronner le relais tricolore en biathlon. Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet ont répondu aux attentes bleues dans des conditions difficiles qui a donné lieu à une course pleine de suspense. Notre consultant Loïs Haber a commenté cette course. Est-ce que, comme Martin Fourcade qui l'a exprimé au micro d'Eurosport, on peut être satisfait de cette médaille vu les conditions?
Je pense qu'on peut même enlever vu les conditions. On peut tout simplement être satisfait de cette médaille. C'est une médaille déjà. C'est les Jeux Olympiques. On croit qu'on est favori parce qu'on a des super athlètes, mais en face, il y a des super athlètes aussi qui gagnent des courses tous les week-ends. Donc, on a une belle équipe parmi d'autres belles équipes. Donc, une médaille d'argent, c'est vraiment génial. Et en plus, voilà, ça, les conditions rajoutent un peu de satisfaction parce qu'il y avait énormément de pièges aujourd'hui et les Français sont bien passés à travers de tous ces pièges, donc dans le bon sens du terme. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Messieurs, des rebondissements, on en a vu. On était derrière, on est repassé devant, on a reculé dans la hiérarchie. Ouais. C'est génial quand c'est comme ça.
Ouais, moi, franchement, au-delà de la médaille qui fait effectivement très plaisir et qui fait du bien, je pense, à tout le monde, à tout le groupe, aux quatre qui étaient là dans ce relais, mais au-delà à toute l'équipe de France, parce que c'est déjà une médaille, le compteur il est ouvert et ça va éviter qu'on leur dise pendant au moins 48 heures à quand la première médaille. Mais au-delà de ça, on a vécu une course, moi j'ai vraiment adoré, il y a tout ce qui fait qu'on aime le biathlon dans ce relais mixte. C'était vraiment un des relais les plus dingues que j'ai vu moi ces dernières années dans un grand championnat. Ça a été les montagnes russes. Enfin, on se souvient quand même que Julia Simon, avant qui était donc la deuxième relayeuse, avant le tir debout, elle est à près d'une, elle a 1 minute 15 ou 1 minute 20, je crois, de la tête. Elle est à 50 secondes du podium. Et finalement, à mi-course, l'équipe de France va être en tête. Et derrière, Emilien Jacquelin, il s'en est fallu très peu qu'il passe de la première à la 7e ou 8e place, si ça n'avait pas aussi mal tiré à côté de lui. Donc, c'était vraiment une course incroyable avec un sprint à 3 pour l'or. Je ne sais pas si on peut faire beaucoup mieux. En tout cas, en termes de suspense et de ressenti, nous, devant notre écran, c'est sûr que c'est toujours plus confortable pour l'athlète quand il est tout seul devant. Mais c'était vraiment une course formidable. Et si les Jeux de Pékin en biathlon doivent ressembler à ce qu'on a vécu samedi, ça va être des Jeux assez formidables.
Ouais, je suis d'accord avec Laurent, on a eu tout ce qu'on aime dans le biathlon et dans le sport, et j'aime bien la symbolique aussi de dire qu'on a fini les Jeux d'été avec des victoires collectives, on redémarre aussi avec une victoire collective et avec, comme tu l'as dit, des montagnes russes, Anaïs Chevalier, Julia Simon, il y a eu un coup de moins bien, un coup de mieux, etc. Et on sent que c'est une équipe qui il y a une entraide et on a vécu vraiment un moment super parce que voilà, c'est le lancer comme ça. Comme tu l'as dit, premier jour, première médaille, on attend énormément du biathlon. Donc là, il n'y a pas de doute. Il y a du monde, il y a du répondant et ça démarre comme il fallait. Donc vraiment, là, c'est évidemment, ça aurait pu être l'or, mais comme Loïs l'a dit tout à l'heure, c'est une médaille et c'est hyper important.
Quentin Fillon-Maillet l'a reconnu, hein, ça lance les Bleus, ça lance l'équipe de France. Il y avait besoin de ça ou on sait quand même que les Français sont quand même dans une forme optimum. Comment tu analyses ça, toi, Loïs ?
Déjà, il y a un petit truc à rappeler, c'est que normalement, les JO s'ouvrent sur un sprint, donc c'est sur un format qui est complètement différent. Là, ils ont pris le parti de faire comme au championnat du monde de biathlon et de lancer sur un relais mixte. Et ça, je trouve que c'est un petit plus pour les leaders, parce que c'est vraiment les leaders d'équipe hein, qui sont sélectionnés pour ce format de course. Et ça leur permet de dégager la pression, quoi, de faire une course en relais qui est un peu différente, sur un format assez court, donc ils prennent des infos. Et en plus, ils peuvent un peu se décharger. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et il y a un autre truc, c'est que tout le monde avait peur de ces JO à cause du vent, à cause du froid. Et au final, je trouve que c'est ces deux éléments qui ont rendu la course dingue aujourd'hui. Parce que ce vent, il était assez fort pour vraiment gêner tout le monde, mais pas trop fort pour faire annuler la course ou pour la rendre... ridicule, quoi. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu autant de rebondissements. C'est réellement dans le monde des relais, c'est dans l'histoire des relais du biathlon, c'est un des plus fous qu'on ait eu, quoi. Simplement.
Et une petite question, Loïs, pour toi par rapport au froid. Il y a Émilien Jacquelin qui, on l'a vu sur le tir debout quand il a commis ses fautes, mais en plus il a eu du mal à prendre ses balles et à mettre ses balles. Il a expliqué qu'il avait à cause du froid glacial, qu'il avait des gants plus épais et qu'il avait moins de dextérité, donc ça a été plus difficile. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut s'ajuster je pense aux relais masculins notamment, parce qu'en individuel ce sera un petit peu différent, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ajuster pour les prochaines courses? Et j'ai pas eu l'impression que tout le monde ait eu ce genre de problème là. Alors c'est quoi ces gants? Ils sont vraiment très très différents de ceux qu'ils ont d'habitude?
Moi, je crois qu'il y a deux facteurs. Il y a le froid qui engourdit les doigts et qui fait qu'on doit, prendre des gants plus gros. Mais il y a aussi le fait que c'est la première course, qu'il y a énormément d'attentes. Parce que je l'ai re-regardé trois fois, la course, depuis tout à l'heure. Et à chaque fois que certains athlètes ont des problèmes pour mettre les balles, ça a été assez courant. Emilien, un peu plus. Mais même quand on regarde derrière, beaucoup d'athlètes qui ont eu ça. Je trouve que c'est du stress. Emilien, ouais. On voit vraiment, il se précipite sur sa carabine. Il veut aller trop vite. Et pour aller aussi vite, il faut être l'été, les doigts chauds. En fait, il y a de la graisse qui est autour de la balle, donc qui vient figer. Dans des bonnes conditions, il y arriverait. Mais là, avec les conditions de froid, il a des gants plus épais et du coup, il n'arrive pas à piocher aussi vite. Et tout de suite, il s'énerve. Je trouve que ça manque un peu de relâchement. Pour moi, c'est surtout ça le facteur. Oui, il y a des gants plus épais. Oui, il y a du froid et tout ça. Ça les empêche d'aller vite. Mais le vrai facteur, je trouve que c'est quand même qu'il était très tendu derrière sa carabine, qui s'est vite crispé dans un moment où on se crisperait pour moins. Hein, quand même, il est au JO, il a 30 secondes d'avance et il est en train de perdre beaucoup sur son tir debout. Donc, il ne s'en sort pas si mal à la fin. Mais je crois qu'il y a surtout ça, c'est qu'il voyait, les choses lui échapper, il a voulu se précipiter et derrière ça ne marche pas.
Et puis, il avait l'air bien sur les skis quand même aujourd'hui, parce qu'il était... On sentait qu'il était un peu moins frais au mois de janvier. On sait qu'il a fait une impasse avant les Jeux parce qu'il avait l'air fatigué. Est-ce que tu l'as trouvé rassurant à ce niveau-là? On a l'impression d'avoir retrouvé sur les skis le Jacquelin peut-être d'avant Noël, on va dire, ou tout début janvier.
Ouais, complètement. Sur les skis, il est vraiment très fort. On l'a vu hein, sur les deux premiers tours, il est capable de remonter sur n'importe qui, de combler des trous de 8-10 secondes en 1,5 km. Donc là, on l'a vraiment retrouvé. Je pense que ça va lui faire du bien. Après, il y a ce passage au tir qui, à mon avis, lui a laissé des traces aussi aujourd'hui. Enfin, mentalement, je ne suis pas sûr qu'il soit pleinement rassuré à l'approche des individuels de lundi, mardi, où le tir aura une part encore plus importante. Mais sur les skis, en tout cas, zéro inquiétude dans le clan français sur les quatre qu'on a vus. Anaïs Chevalier en léger retrait, mais les trois autres sont vraiment au top niveau.
Vas-y, Maxime.
J'ai une petite question, mais sur ces Norvégiens et Johannes Bø, qui a gagné, qui a terminé le relais norvégien. Comment toi, tu le sens pour ces JO? Parce qu'on sent finalement peut-être une montée en puissance au bon moment. La Coupe du Monde s'est terminée pour lui, mais on sent que pour les Jeux, il y a cette montée en puissance qui va et qui pourrait être un adversaire plus que sérieux pour les Français.
Ah bah là il a, je pense qu'il a, il a marqué les esprits aujourd'hui. Hein. On le voit dans le dernier tour où Quentin part à bloc pour essayer de revenir sur le russe et il sait que Johannes n'est pas loin derrière. Donc il faut surtout, le but c'est que Johannes ne puisse pas rentrer. Donc même en travaillant comme un dingue, avec le vent dans le dos sur cette première partie, il se fait combler les 9 secondes en pas longtemps. Et il faut rappeler quand même que Johannes Bö, historiquement, des derniers tours, en face à face, il n'en a quasiment jamais gagné, en fait. Ce n'est pas un finisseur. C'est un mec qui va très vite en ski sur tous les tours, mais qui a du mal à, sur des face à face, qui a du mal à décrocher les gens, parce qu'en fait, il va vite de partout. Et là, aujourd'hui, avec une piste aussi dure que celle-là, parce qu'on résume souvent les pistes au dénivelé, et je pense que ça, c'est une belle erreur. C'est plus il y a de dénivelé, plus c'est dur. En fait, parfois, dans des conditions de neige très lentes comme on a là, moins il y a de dénivelé, plus c'est dur. Parce qu'en fait, il faut travailler partout, même dans les descentes. Et là, il se retrouve à devoir patiner en permanence sur une neige qui est vraiment dure. Il faut pousser les skis. Si on écoute, on coupe les micros, on écoute, on entend la neige qui crisse. C'est une neige qui est extrêmement sèche. Les skis ne marchent pas très bien là-dessus. Donc, il faut sans arrêt pousser. Et là, on avait des vraies conditions difficiles, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a... c'est pas les sprinteurs qui l'ont emporté à la fin. Donc là, je pense qu'il a bien marqué les esprits, Johannes Bö, parce que sur un dernier tour, il a réussi à mettre tout le monde d'accord, alors que c'est censé pas être son point fort.
On le retrouvera mardi pour l'individuel homme à partir de 9h30, et la veille, lundi, l'individuel femme à partir de 10h. On passe au chiffre du jour, si vous le voulez bien, Maxime. Quel est ce chiffre?
Ce chiffre, il est simple, c'est 1. C'est-à-dire que on a gagné... La France a gagné, on ne va pas être complètement chauvin, sa médaille dès le premier jour des JO. Et c'est plutôt pas mal parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a 4 ans, c'était au bout de 2 jours avec Perrine Laffont. Il y a 8 ans à Sochi, c'était Martin Fourcade et Jean-Guillaume Béatrix qui avaient gagné l'or et le bronze en poursuite. Et la dernière fois que c'est arrivé, en fait, c'était toujours du biathlon. C'était Marie Dorin à Vancouver dès le premier jour, donc c'est plutôt pas mal. On aura peut-être Perrine Laffont demain et on a le biathlon aujourd'hui. Donc, les valeurs sûres, a priori, sont là et c'est plutôt pas mal pour débuter les Jeux.
Et pour rebondir sur cette première médaille qui vient du biathlon, ce qui n'est pas une énorme surprise hein, quand on regardait le programme de samedi, c'était même espéré. Louis, ce serait, je te demandais de te mouiller un petit peu, des jeux réussis. Je sais que Martin Fourcade sur Eurosport a dit... 4 à 6 médailles, 4 à 7 médailles. Alors, on a presque envie de dire que c'est un objectif timide ou en tout cas raisonnable au vu de ce que les garçons et les filles ont fait cet hiver, et en individuel et dans les relais. On va dire le seuil minimal de jeu réussi pour le biathlon tricolore, ce serait quoi pour toi?
Je pense que le seuil minimal, je le vois là, entre 4 et 6 médailles. Ça voudrait dire que c'est des jeux réussis, mais le seuil entre la déception et la réussite, il est assez fin, en fait, quand même. Hein.
Ça dépendra des titres aussi, peut-être.
Ça dépendra des occasions qu'on a. Hein. Si on fait quatrième tout le long et qu'on finit avec 2 médailles, je pense qu'on aura vraiment les boules. Donc, ça dépendra des occasions qu'on a. Mais réellement, on a une équipe qui est capable de faire des médailles sur toutes les courses. Mmh. Et parfois, plusieurs médailles. Quand on voit le niveau... encore pas si longtemps, il y a une quinzaine de jours de ça, les filles ont fait première, deuxième sur une Coupe du Monde en Terre Selva, sur un individuel, c'est le format qui arrive lundi. Des triplés français sur les 3-4 dernières années, on en a eu. Donc oui, en fait, il faut rappeler qu'il va y avoir 11 courses en biathlon, c'est énorme. Et les meilleurs garçons ou les meilleures filles vont participer à 6 courses chacun. Donc il y a 5 courses hommes, 5 courses femmes et une course mixte qui a eu lieu aujourd'hui. Donc, c'est une chance quand même pour... Il y a peu d'autres sports qui fonctionnent comme ça. Parce que les athlètes font les courses et il n'y a pas de spécialistes. Ou quasiment pas de spécialistes. Il y en a qui sont un peu plus à l'aise dans un format, mais ça se ressemble vraiment physiologiquement. Ça se ressemble énormément. Ce n'est pas un 400 mètres et un 100 mètres. Ce n'est pas pareil. Donc, il y a vraiment des chances de médailles sur toutes les courses. Je vais mouiller en disant qu'ils peuvent faire 8 médailles, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Une médaille sur chaque relais et des médailles en individuel, c'est pas impossible du tout.
Et la grande force, la grande force de cette équipe de France, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est qu'elle ne repose pas sur un ou deux grands leaders. Il n'y a plus de Martin Fourcade. Mais en revanche, voilà, chez les filles, elles sont quatre à avoir fait au moins deux podiums cet hiver, ce qui est énorme quand même. Elles en ont fait entre deux et quatre, je crois. Et chez les garçons, voilà, Fillon Maillet et Jacqueline ont quand même énormément de victoires et de podiums. Simon Détieux qui avait fait aussi un podium en tout début d'année. Donc, c'est cette densité, cette homogénéité-là qui peut rendre optimiste, non ?
Ouais, des points de vue rassurants, on en a plein. Comme ça, il y a quand même trois garçons qui ont porté le dossard jaune. Donc, en France, il y a trois garçons qui ont été leaders du classement général. Simon Détieux en premier, ensuite Émilien, ensuite Quentin Fillon-Maillet. Non, Quentin, puis Émilien, puis Re-Quentin. Mmh. Donc, c'est signe quand même de force. Derrière, Fabien Claude qui est régulièrement entre 4 et 10. Antonin Guigona, qui est le premier remplaçant, qui a de grandes chances de ne pas courir, malheureusement pour lui. Il fait quatrième à la dernière Mastart d'Anterselva. Donc, on a une équipe qui est vraiment, vraiment solide, ouais, c'est sûr. Et ça fait plaisir. C'est toujours un honneur, une force en tout cas de voir qu'une équipe ne repose pas sur un athlète. Et c'est ce qui fait leur force dans tous les relais aussi. Parce que ça fait partie des rares équipes. Et comme ça, il y a la Norvège. Et c'est à peu près tout, France-Norvège, qui ont quatre relayeurs de très, très haut niveau.
Donc, a priori, on a des chances de t'avoir plusieurs fois dans l'émission pour parler médailles.
Normalement, vous allez me revoir, hein. Désolé. Hein.
Avec plaisir.
On ne demande que ça.
On va passer désormais à la question qui fâche. La question qui fâche concerne le ski alpin et plus particulièrement la descente. Le troisième entraînement a été annulé samedi à cause du vent après le passage de seulement trois skieurs et pas des moindres, Maier, Innerhofer et Kilde. Mais cette annulation a fait jaser, c'est le moins qu'on puisse dire. Jan Rud a même déclaré sur Eurosport, il a parlé d'une décision dictatoriale de la part de Marcus Wagner, le boss du circuit masculin. Est-ce qu'on aurait pu ou est-ce qu'il aurait fallu agir autrement ?
Est-ce qu'il aurait fallu faire autrement ? Bah, sans doute, mais est-ce que c'était prévisible ? C'est compliqué. En fait, déjà, il y a plusieurs choses. Faire autrement, c'est peut-être remonter très, 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 très loin et pas seulement au dernier jour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le choix les Jeux Olympiques s'est porté sur Pékin, forcément sur une piste qui n'est pas naturellement dévolue au ski, parce qu'il faut le rappeler que cette piste n'est pas enneigée. Il fait très froid. Aujourd'hui, il faisait moins 28 degrés en ressenti, des rafales de vent à plus de 60 km/h. Donc, c'est des conditions quand même qui sont très, très, très limites, en effet. Et oui, à partir du moment où on allait dans ce coin-là, il y avait cette chance-là. On va ajouter aussi quelque chose qui est pas du ressort, là, pour le coup, ni du CIO, ni des organisateurs, c'est la situation sanitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pu avoir d'épreuve de préparation à un moment donné. Il y aurait peut-être pu avoir une Coupe du Monde, quelque chose, mais il n'y a pas eu ça, puisque le monde s'est un peu arrêté de tourner depuis 2 ans. Donc, résultat, les skieurs sont arrivés sur une piste qu'ils ne connaissent pas, mais vraiment pas du tout. Il n'y a pas de repère, puisqu'on l'a dit, ce n'est pas une piste naturelle. Donc, c'est sûr que ce matin, on peut comprendre la grande majorité du Cirque Blanc qui s'est retrouvé à se dire nous, on ne peut pas s'entraîner et cette piste-là, on ne la connaît pas. Alors, on sait qu'ils ont pu aller la voir lentement, c'est-à-dire regarder les dévers et tout quoi elle est faite. Mais évidemment, ça ne remplace pas le reste. Maintenant, le boss de la FIS, Wallner, je vais lire ce qu'il a dit. Il s'est défendu ainsi en disant « Une minute avant qu'on lance le dossard numéro 1, les rafales ont commencé. C'était imprévisible et hors de contrôle. S'il y avait une chute, etc., il y a la sécurité d'abord. » C'est difficile de lui donner tort là-dessus, en effet. Mais c'est vrai qu'il y a un souci et on peut s'attendre peut-être demain. Alors, peut-être qu'on va pouvoir dire qu'il y aura un avantage à ceux qui se sont entraînés. Mais j'ai l'impression que la descente olympique, parfois, ça peut s'apparenter parfois à une petite loterie. Il y a peut-être des chances qu'on ait quelque chose de très particulier, justement, dimanche, parce qu'il y aura encore ces conditions sûrement venteuses, ce froid-là qu'il faudra aussi, entre guillemets, apprivoiser. Et ce ne sera pas le plus simple. Donc, ça va être vraiment une course. C'est même pas ouvert, ça va être indécis au possible, à mon avis.
J'ai l'impression que c'est presque le fait qu'il y ait trois coureurs et seulement trois coureurs qui aient eu la chance de passer qui a provoqué ce courroux. Finalement, ça avait été annulé et que tout le monde avait été sur le même pied d'égalité, il n'y aurait pas eu tout ce pataquès.
C'est ce qu'ils sont plusieurs à avoir dit. Ils ont dit si l'entraînement avait été annulé dès le matin, il n'y aurait eu aucun problème, personne n'aurait râlé. Là, au-delà du fait de ne pas avoir pu reconnaître une dernière fois la piste, c'est le fait qu'il y ait trois coureurs, dont quand même le grand favori de la descente, Kilde, qui lui a pu faire cette dernière reconnaissance, alors que d'autres non. Donc ça crée forcément une inéquité. Après, est-ce qu'ils auraient pu attendre un peu, s'il y a eu vraiment les premières rafales de vent avant le départ du premier dossard ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que ça pose quand même un petit problème maintenant.
Ça aurait pu repousser ?
Sais que David Chastan en a parlé, a dit bah, la veille, ça avait été repoussé d'une heure, le départ.
C'est ce qu'on ne comprend pas bien, c'est pourquoi les prévisions météo sont quand même a priori relativement précises. Et s'il y a vraiment du vent très très fort dont on sait qu'il va arriver, peut-être qu'on aurait pu, encore une fois, je n'ai pas tous les détails et tous les éléments, mais peut-être qu'on aurait pu décaler d'une demi-heure, d'une heure, et décider à ce moment-là ou de faire partir tout le monde ou d'annuler purement et simplement. Là, ça fait quand même un petit cafouillage, quoi.
Et c'est un peu ça qui est bizarre, en effet, dans la décla de Wallner, il dit c'est arrivé une minute avant, c'était imprévisible. Comme tu dis, Laurent, j'imagine qu'il y a quand même des capteurs et des satellites et tout ce qu'on veut météorologiques qui sont assez précis et qui avaient peut-être la marge pour reculer au moins de quelques minutes, voire d'une heure ou deux. Je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que c'est bizarre et c'est vrai qu'il n'y en a avoir que trois. Et en plus, ces trois-là qui passent, ça crée une forme d'inéquité sur cette descente.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Louis ? Tu comprends la frustration des skieurs ?
Et je la comprends carrément et je trouve, c'est un peu polémique ce que je vais dire, mais réellement, la FIS, ils collectionnent des trucs comme ça. Cette année, il y a eu l'accident il y a eu… si on reprend, c'est la dernière descente, là, il y a une dizaine de jours où ils ont ouvert un entraînement spécialement pour un athlète, un Autrichien, qui revenait du Covid, donc qui n'avait normalement pas le droit de faire les entraînements et donc pas le droit de faire la descente. Ils lui ont ouvert un créneau d'entraînement juste pour lui, pour qu'il ait le droit. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de courir si on n'a pas fait les entraînements. Donc lui, il est parti, il a fait 3 mètres et hop, il a fait demi-tour, il est rentré, mais au moins, il a été autorisé à courir. Il a gagné le lendemain. Après, Krickmayer, exactement, merci.
À Kitzbühel,
Il y a l'histoire des fondeurs en début de saison où les Norvégiens, il y a un bras de fer avec les Norvégiens, ils n'arrivent pas à les avoir au départ parce qu'il fait soi-disant trop froid. Après, ils ont un problème de chronométrage. Ils mettent les athlètes au départ et le chrono ne marche pas, donc ils les renvoient dans les box. Puis après, ils lancent la course, mais certains n'étaient pas revenus des box.
Il y a aussi à Zagreb Victor Mufajandé qui s'est cassé la cheville.
Exactement, donc en fait, la FIS, ils collectionnent des choses comme ça. Et aujourd'hui, ils ont fait un mauvais choix. Il n'y en aurait qu'un, je dirais, c'est le hasard. Ouais, c'est l'effet de course, c'est un sport extérieur. À un moment, quand même, ça n'arrive jamais en biathlon, en fait. C'est l'IBU, je pense, qui est beaucoup plus carré là-dessus. Et la FIS, des fois, c'est un peu le Far West quand même. Et ils collectionnent quand même les mauvais choix. Et les athlètes sont rarement contents, en fait, à la fin.
Merci, en tout cas. De ces explications, la descente c'est à suivre, pour le coup les conditions devraient être meilleures dimanche si on écoute David Chastan, le patron de l'équipe de France. Après évidemment ça peut évoluer partir de 4h sur Eurosport. Je sens que Maxime, tu as des infos météo.
Non, mais j'ai lu que ce serait potentiellement pas terrible non plus. Donc, après, je ne travaille pas à Météo France, mais j'ai l'impression qu'elle a fils non plus. Donc, ça ne va pas très bien.
Et voilà.
Et si vous voulez découvrir la piste de la descente The Rock, n'hésitez pas à aller sur eurosport.fr. On a la descente en caméra embarquée. C'est assez impressionnant visuellement et même au niveau sonore. Donc, à voir avant la descente.
Une très belle piste, en tout cas, louée par tout le monde. Hein. Tout le monde est ravi de la piste, de son exposition en plein soleil permanente et de la qualité de la neige. Dimanche, c'est le grand jour pour Perrine Laffont. La Française est en lice pour tenter de décrocher une nouvelle médaille d'or, la deuxième en deux Olympiades. Une médaille qui a malheureusement échappé à Ben Cavé samedi, le skieur de Châtel au pied du podium. Sacha Théocaris, lui, termine 11e pour ses premiers Jeux. Perrine Laffont est lancée pour obtenir une deuxième breloque, je le disais. Deuxième des qualifications, Pépette va-t-elle le faire? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Pour en parler, on a Ophélie David, notre consultante. Qu'est-ce que tu en penses, Ophélie? Demain, on va avoir une nouvelle médaille d'or ou pas?
Écoute, oui, en tout cas, on l'espère tous. Tous les feux sont plutôt au vert pour Perrine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, en tout cas, elle a toutes ses chances. Donc, évidemment, on peut en rêver, on peut l'accompagner, on peut vibrer avec elle. Elle a le talent, ça, on le savait, mais elle a aussi l'expérience sur cette Olympiade et une détermination qu'il n'a pas quittée. Du coup, on peut vraiment espérer qu'elle nous ramène l'or et qu'elle rentre un petit peu plus dans l'histoire. Et puis, qu'est-ce qui peut l'en empêcher? Bon, elle a des belles adversaires, mais cette adversité, je pense, la sert à elle aussi, parce que ça l'a obligée aussi à progresser, à se remettre en question, etc. Mais c'est vrai que je vais surprendre personne en parlant de la jeune Andrika Wamura et de Jacara, l'Australienne, qui sont, je pense, les filles à surveiller comme le lait sur le feu demain.
Jacara qui a fait la meilleure note en tout cas des qualifications. La japonaise, cinquième. Mais c'est ces deux filles-là dont il faudra se méfier.
Oui, je pense. Alors, Jacara Anthony est connue pour avoir une technique solide, des coefficients de saut élevés. Par contre, à la qualif, elle nous a vraiment surpris en signant le meilleur chrono également, alors que ce n'est pas forcément son point fort. On sait aussi, par contre, que Perrine, sur ce run de qualification, elle avait besoin surtout de se mettre dans le bain, de se mettre dans le ring, de se rassurer, de prendre ses marques. Et c'est ce qu'elle a fait sans prendre de risques. Donc, en fait, tout ça est de très, très bon augure, clairement.
C'est ce qui est plutôt pas mal, du coup, sans prendre de risque, se qualifier comme ça. Alors, après sa qualif, son entraîneur a dit qu'il y avait des petites modifications à apporter ou des détails à régler. Mm-hmm. À ce moment-là de la compétition et de, j'allais dire, son histoire olympique, où sont ces détails, justement?
Waouh, alors là, tu me fais rentrer dans la peau de Ludo Didier, c'est pas facile, parce qu'il est très, très, très fort. Non, je pense que peut-être... augmenter un petit peu ses coefs de saut, pourquoi pas rajouter quelques grabs. Je pense qu'elle peut largement skier plus vite aussi, en étant un petit peu plus agressive, en attaquant plus tôt dans la bosse. Voilà, c'est vrai que ce n'était pas le run où il fallait prendre ses risques. Là, demain, ça va être des runs où progressivement, il va falloir monter le curseur et du coup, la prise de risque aussi. Elle a de la marge. Je pense qu'il parlait de ça.
Laurent, qu'est-ce que tu imagines comme finale demain? Perrine, elle a l'habitude de... Enfin, la pression, ce n'est pas ça qui va la faire peur. La piste, tout le monde loue la qualité de la piste. Le vent, peut-être, qui peut la perturber?
Oui, c'est marrant ce que disait Ophélie sur le fait que la concurrence qui est vraiment très importante, et elle l'a dit d'ailleurs, Perrine Laffont, elle a dit « j'ai plus de marge ». Elle a dit « je n'ai plus de marge par rapport aux meilleures filles derrière moi ». C'est-à-dire qu'avant, tout dépendait vraiment d'elle. Si elle faisait... le run qu'il fallait, les sauts qu'il fallait, si elle ne commettait pas d'erreur, elle savait en gros qu'elle allait gagner. C'est presque encore vrai aujourd'hui, c'est-à-dire si elle est vraiment à son tout meilleur niveau, elle sera ou médaille d'or ou tout près de la médaille d'or, mais elle l'a dit, j'ai moins de marge. Mais je pense aussi que c'est plutôt pas mal pour elle parce que elle est très jeune, elle a tout gagné, elle a été championne olympique, elle a été championne du monde, elle a gagné la Coupe du Monde, donc elle a un palmarès déjà complet et peut-être qu'il lui fallait être titillée comme ça un petit peu pour rester en éveil, et c'est peut-être, alors on le saura demain, hein, mais c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux pour vraiment être au top sur ces Jeux. Et c'est vrai qu'elles sont quatre à avoir gagné cette année en Coupe du Monde. Elles étaient, je crois, six à être à monter sur le podium. Donc c'est peut-être un petit peu plus resserré que chez les garçons avec la finale de samedi, mais ça reste quand même assez ouvert. Mais elle a vraiment, oui, elle a toutes les cartes en main pour, on va dire, un minima être sur le podium, et il ne faudra pas lui tomber dessus si jamais elle est médaille d'argent ou médaille de bronze. Ça restera une très, très belle performance. Ce serait encore une médaille olympique. Et Perrine Laffont, on a l'impression qu'elle gagne tout le temps, mais non, elle ne gagne pas toutes les courses. Non. Mais elle a gagné dans tous les grands rendez-vous ces dernières années, pratiquement. Donc, c'est ça qui, avec un œil un peu extérieur, peut être trompeur et donner l'impression qu'elle est absolument imbattable. Et si elle est, encore une fois, sur le podium, ce sera une très très belle réussite. Et évidemment, si elle a une deuxième médaille d'or, ben là, elle rentrera carrément dans l'histoire et des bosses et du sport français, parce que c'est très très rare de conserver un titre olympique, notamment aux Jeux d'hiver. C'est arrivé que trois fois, je crois, dans l'histoire.
Tu as absolument raison, et de toute manière, l'esprit de compétition, c'est ça aussi, c'est avoir de beaux adversaires, c'est eux qui nous aident à nous sublimer, à être meilleurs. Et je crois que il faut être joueur, et quand tu n'as pas de joueur à tes côtés, tu as vite fait de t'étouffer. Et là, tu as raison, tous les ingrédients sont là pour qu'on vive une super, super belle finale. Évidemment, on est à fond derrière Perrine, on rêve le mieux pour elle, le meilleur pour elle, mais tu as raison, il ne faut pas croire que c'est si facile. À chaque fois, c'est un exploit, et même ceux qui renouvellent leur exploit, c'est jamais très simple. Merci de l'avoir vraiment souligné.
À suivre dimanche à partir de 12h30 sur Eurosport. On sera fidèles au rendez-vous. L'heure olympique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes tous les jours directement sur votre smartphone en fin de journée. On se retrouve demain avec, on l'espère, deux nouvelles médailles tricolores. Salut à tous et à demain.
Salut.
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 Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.